j'ai écouté une émission avec le monde diplomatique. Daniel Mermet, si vous n'étiez pas de France Inter, si vous n'aviez pas des interlocuteurs valables, on pourrait se poser des questions si ce que vous racontez est réel ou pas. C'est hallucinant, mais vraiment hallucinant, ce qu'on peut apprendre sur le monde, sur les choses, et j'ai été particulièrement bouleversée par cette journaliste dont je ne me souviens pas le nom et j'en suis désolée, mais sur l'immigration des Africains, etc. Et de, bon, c'est... Voilà, c'est... Bon, encore une fois, si vous n'étiez pas accrédité par France Inter, vraiment, on aurait des doutes. Merci, au revoir.
Oui, bonjour monsieur. Je conteste les dires de vos invités d'aujourd'hui. On est lundi, donc 31 mars. Vous avez une invitée, je crois, du journal Le Monde Diplomatique qui affirme que les soldats américains ne sont pas accueillis avec des fleurs. Non, très bien, soit. Ceci dit, on a quasiment la preuve de par les Irakiens libérés qui viennent vers les soldats américains ou anglais, qui sont très contents d'être plutôt du côté américain et anglais que du côté Saddam Hussein. Donc, quand vous parlez de liberté, il faut employer des propos beaucoup plus mesurés que vous ne le faites. Merci, au revoir.
Salut, il y a une chanson de Guns N' Roses qui serait bien dans le contexte actuel qui s'appelle Civil War. I don't want your civil war. Et c'est un Américain qui parle et elle a été écrite il y a déjà quelques années, juste avant la guerre du Golfe. Voilà, si tu veux passer un petit bout, on pourra entendre aussi l'autre face cachée du peuple américain.
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.
Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. So civil about war anyway.
Voilà, c'est l'autre face cachée du peuple américain. Salut.
On the road again. On the road again, eh ben, c'est de l'américain. Et vous comprenez, puisque nous sommes tous américains. Mais j'ai l'impression que vous l'oubliez un peu ces temps-ci, que nous sommes tous américains, ingrats, renégats, munichois, français, en un mot, Frenchy. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je pars en croisade. Je pars pour Bagdad. Oui, pour Bagdad. Je pense qu'on ne peut pas être américain est resté comme ça, les bras croisés. Donc, en route pour Bagdad, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire de très précis pour l'instant, car je suis à Roissy en attendant l'avion. En attendant, dans la base où j'y suis, jusqu'à 18h, on va retrouver Yeshaou Leibovitch, le professeur Leibovitch. C'est un peu un document, c'est un entretien qu'il nous avait accordé en 1991, il y a 12 ans, à Jérusalem, dans sa petite maison de Jérusalem. Le professeur Leibovitch, on en a parlé vendredi dernier, souvenez-vous, avec le cinéaste israélien Eyal Sevan, et on a évoqué la figure de Yeshaou Leibovitch, ce prophète, cet imprécateur qui était la mauvaise conscience d'Israël et qui toujours aujourd'hui est à la fois redouté mais très respecté en Israël. Et puis on a évoqué aussi cette rencontre entre le professeur Leibovitch et puis Pierre Vidal-Naquet, et je vais vous faire entendre un extrait de cette rencontre tout à fait extraordinaire. Donc voilà, aujourd'hui la voix de Yeshaou Leibovitch et celle aussi de Pierre Vidal-Naquet, à un moment où la régression est ce qui marque le plus cette région du monde. Il me semble intéressant de faire entendre la voix de Leibovitch que notre ami Abraham Sissal compare à Jérémie.
Il y a un chemin qui mène de l'humanité par la nationalité à la bestialité.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, c'est Jésus.
Flight number 2, arriving from...
On va retourner dans un instant dans le vieux quartier Naalataïm à Jérusalem où le professeur Leibovitch recevait tout le monde, le monde entier. J'ai eu la chance d'être reçu par lui à cette époque-là, religieux et mécréant. Il recevait les jeunes, les vieux, les juifs et les non-juifs. On le retrouve tout de suite.
Der Panim Ve'avot She'efshar
Palestiniens qui ne sont pas citoyens de l'État d'Israël, mais ils sont dérivés, ils sont dominés par l'État d'Israël. Ils n'ont pas même les droits civils. La situation est comparable à la situation des nègres dans l'Empire français colonial à l'Afrique centrale il y a 50 ans ou 100 ans avant notre temps. Et c'est une situation qui ne peut pas continuer à exister.
Ah, François, ça va plus tard. Cette voix s'est éteinte en août 1994 et c'est en octobre 91, il y a exactement 4 ans, que j'ai rencontré le professeur Leibovitch à Jérusalem. Et j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire réentendre la voix de cet homme remarquable entre tous. On l'appelait la mauvaise conscience d'Israël. Il était un juif religieux, un érudit, épris de paix, mais s'il a critiqué beaucoup, beaucoup la politique menée dans son pays, il était d'abord opposé à tous les fanatismes orthodoxes qui ravageaient l'extrême droite israélienne, évidemment, déjà à l'époque. Il faut replacer cet entretien et ce qui va être dit dans le contexte, même si l'essentiel n'a pas besoin d'être inscrit dans un contexte. Mais c'était en octobre, début octobre 91, alors que c'est fin octobre 91 que s'est ouverte la conférence de Madrid sous la pression de la communauté internationale, alors que le Likoud d'Itzhak Shamir était encore au pouvoir. Et longtemps, les discussions ont piétiné à cause de l'intransigeance israélienne jusqu'aux élections en 92, l'élection des travaillistes au pouvoir à la Knesset. Il faut rappeler évidemment le 13 septembre 1993, la signature de la déclaration de principe sur l'autonomie palestinienne à la Maison Blanche à Washington, image et scène que le professeur Leibovitch, dans sa petite maison à Jérusalem, a dû, je pense évidemment, et c'est même certain, voir. Il est mort quelques mois plus tard. Leibovitch était un philosophe, je l'ai dit, un scientifique, il était neurophysiologue, spécialiste de la chimie du cerveau. C'était un homme très croyant, très pratiquant. Le Talmud constituait le motif, la matière permanente de sa réflexion, mais il était aussi, on regrette de dire des choses comme ça, mais, et aussi, dès qu'on parle de réflexion à partir de textes sacrés, mais il faut le dire peut-être dans des jours comme aujourd'hui, un humaniste qui ne voulait pas confondre le religieux et le politique. Il affirmait qu'un État ne peut être basé sur des textes sacrés. Quand je l'ai rencontré, il avait 90 ans, et j'évoquais son âge, il m'a dit ça me concerne pas. C'était une question qu'il ne voulait pas du tout aborder, comme si le temps n'avait pas pris sur ce bonhomme dont la silhouette assez écrasée comme ça était très connue des Hiérosolomitains, des habitants d'Israël. Et c'était vraiment un intellectuel, un véritable intello, pas une petite star cathodique ni un consensuel. C'était quelqu'un qui suscitait des polémiques, qui a suscité des polémiques tout au long de sa vie à l'intérieur de son pays comme à l'extérieur. Et son idée la plus provocante était, lui qui était gaulliste et qui était très intéressé par la politique de la France, disait qu'en 1962, le général de Gaulle avait libéré la France de l'Algérie et qu'il restait à Israël à se libérer des territoires. Écoutez-le quand il évoque, entre autres, l'accommodation psychologique à la violence, le professeur Leibovitch.
On m'a dit que dès 1967, aussitôt, vous avez dit, il faut rendre les territoires. Vous avez pris des positions dès 1967.
J'ai publié quelques articles, quelques semaines ou quelques mois après cette guerre. Cette guerre qui était une victoire militaire brillante. Mais cette victoire était une catastrophe politique et historique pour l'État d'Israël. Je l'ai prédit il y a 20 ans. Elle a corrompu l'État.
La victoire a corrompu l'État.
Corrompu l'État et même corrompu la conscience des gens. Il y a ici, en général, une accommodation psychologique à la violence. En conséquence, le fait que nous exerçons une domination violente sur notre peuple. Cela produit une mentalité de violence, même entre nous.
Mais on vous répond, à chaque fois que vous dites ça, on vous répond que, de leur côté, les Palestiniens sont violents, qu'il y a des terroristes et qu'il y a beaucoup de sang israélien qui a été versé.
Qui exerce aujourd'hui une domination violente sur l'autre partie? Nous sur les Palestiniens ou les Palestiniens sur nous? la domination israélienne sur les États occupés est un terrorisme. C'est la terreur.
Et vous dites ça alors que vous avez contribué à fonder ce pays, que vous êtes religieux, pratiquant et connu pour votre érudition dans votre domaine, et que vous aimez ce pays et que vous y avez des enfants. Enfin, là, c'est en pleine conscience que vous dites ça. C'est en tant que qu'Israélien, que juif israélien, que vous dites ça.
Oui. Il n'y a pas de contradiction ici. Ce n'est pas le sens, ce n'est pas la raison d'être de l'État d'Israël de dominer un autre peuple.
Est-ce que vous pensez alors, dans ces conditions, que votre gouvernement actuel...
Ce gouvernement est un gouvernement annexionniste, comme les gouvernements de la République française avant de Gaulle, qui dominait l'Algérie par la violence. Certainement, il y a une différence. Entre la France et l'Algérie, il y a la Méditerranée. Il n'y a pas de Méditerranée entre nous et les Palestiniens. Les relations personnelles avec les étudiants arabes sont des meilleurs. Néanmoins, ils sont conscients du fait que peut-être, dans le futur, ils tireront sur mes fils et mes fils seront sur...
On ressent tous de l'émotion quand on entend quelqu'un parler de sa patrie. Il y a des gens qui sont capables de parler de leur patrie comme d'autres parlent de leur propre mère. On est toujours ému par ça. C'est au fond la même idée qui conduit aux excès, aux délires nationalistes. À Sarajevo, un type m'a fait voir ce qu'il avait en sa poche. Il avait une petite poupée. Et il m'expliquait comment il faisait pour avoir les gens. On jette, me disait-il, une poupée ou un petit ballon dans la rue. Là où on sait qu'il y a des enfants. Parce qu'on sait toujours qu'un moment ou l'autre, même si les enfants sont très bien gardés, il y a toujours un môme qui va cavaler derrière ce ballon, ce petit objet, et en l'occurrence cette poupée. Et alors, m'a-t-il dit, je tire dans les jambes. Et ensuite, évidemment, les parents sortent, et je peux les dégommer. C'est aussi quelqu'un qui lutte, croit-il, pour sa patrie, pour sa nation. Qu'est-ce qui fait que entre ce sentiment patriotique et ce délire sanguinaire, qu'est-ce qui se passe de l'un à l'autre? Leibovitch répond très simplement. Il dit, la relation entre un peuple et un pays n'est ni juridique, ni rationnelle, elle est existentielle.
أغاني للحرية للوحدة الوطنية.
Un grand parti public commence à comprendre que cette situation, c'est-à-dire l'État d'Israël comme appareil de domination violente sur un autre peuple, ce n'est pas une possibilité qui peut durer. Impossible. Politiquement impossible. Politiquement impossible. C'est la ruine de l'État et c'est le danger de la guerre à outrance. Une guerre dans laquelle la sympathie de tout le monde sera du côté arabe. La raison d'être l'État d'Israël, c'est d'être le cadre pour l'indépendance politique et nationale du peuple juif. Pas d'être un instrument de domination sur un autre peuple. si ce n'est pas un problème religieux. L'État d'Israël n'est pas l'État du judaïsme, mais l'État du peuple juif contemporain. Ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème de nationalité. L'État d'Israël n'est pas l'État du judaïsme, mais l'État du peuple juif contemporain. Et le futur État de Palestine ne sera pas le pays de l'islam, mais le pays du peuple palestinien. Ce n'est pas un problème religieux.
Tout de même, quand devant le mur des lamentations, les uns lancent des pierres sur les autres et qu'on, enfin, on tue devant au niveau des de la mosquée et en bas au niveau du mur, c'est quoi ça? C'est un problème de quoi celui-là?
C'est un problème de la nationalité du patriotisme.
Mais les gens qui sont là ne sont pas des laïcs.
Ils n'ont pas un comportement de
l'État. L'État d'Israël est un État laïque 100%. Les lois de l'État d'Israël ne sont pas les lois de la Torah, mais la loi de Knesset.
Vous êtes né à Riga?
Je suis né à Riga. Nous avons quitté il y a 72 ans.
C'est-à-dire en quelle année ça fait?
1919.
Vous avez quitté Riga en 1919 pour venir ici en Israël? Qui n'était pas encore Israël?
Si, je suis passé par l'Allemagne et par la Suisse. J'ai mon doctorat de sciences de l'Université Berlin, un doctorat de médecine de l'Université Heidelberg. Et nous sommes ici il y a 60 ans.
60 ans, c'est-à-dire que vous êtes installé en Israël avant la fondation de l'État.
15 ans. 17 ans avant de se présenter ça.
Est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire que malgré tout, c'est quand même une réussite Israël?
C'est notre pays.
Vous allez être fier?
Je ne comprends pas la fierté. La fierté nationale est tout à fait étrangère pour moi.
Le sentiment d'une patrie.
Patrie. C'est le cadre de l'indépendance nationale du peuple juif. Quel est le sens du sionisme? Il y a des juifs qui ont assez d'être dominé par les goyim. Voilà le sens du sionisme. Nous avons assez d'être dominé par les goyim. Ce n'est pas le sentiment de tous les juifs, certainement pas. Des millions de juifs sont très contents de leur existence dans ce que nous appelons la Gola, la diaspora. Ils sont des bons et loyaux citoyens français ou citoyens américains ou citoyens britanniques. Il y a des juifs qui ont l'aspiration d'avoir notre politique, l'indépendance politique nationale, pour avoir l'opportunité et le droit de commettre nos propres folies et nos propres crimes.
Voilà l'essence de l'indépendance nationale, d'avoir l'opportunité et le droit de commettre nos propres crimes et nos propres folies et d'être responsable pour eux. Pour tous les peuples.
Ah, franchement, ça ressemble. Ça va, putain.
La voix de Ishao Isaïe Leibovitch, le professeur Leibovitch, enregistré en octobre 1991, peu avant le début des rencontres de Madrid, qui devait inaugurer le processus de paix. Ce grand professeur, cette grande lumière, et s'est éteinte en août 94, et j'ai sous les yeux, en ouvrant un des livres consacrés au professeur Leibovitch, qui s'appelle Israël et le judaïsme, qui a été publié il y a quelque temps, une phrase comme ça, en exergue. Il dit: il est effroyable que la seule valeur qui nous reste soit celle du coup de poing juif. Il était familier de ces aphorismes provocateurs, c'était en ce sens-là un intello, un vrai, qui provoquait ses contemporains, bien au-delà, évidemment, des frontières d'Israël.
Nous avons ici un conflit qui est au-delà de la théorie, de l'idéologie, même de la foi. C'est le fait qu'en relation de ce pays que nous appelons Eretz Israël, et eux l'appellent Palestine, en relation à ce pays, deux peuples existent. Chacun d'eux, avec la plus profonde conscience dans son âme, que ce pays est son pays. Ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de la conscience.
voix du professeur Leibovitch en 1991 à Jérusalem, prophète, imprécateur des années après sa disparition, Yeshayahu Leibovitch continue d'être redouté et respecté et continue d'être la mauvaise conscience d'Israël. Mais sa pensée reste une référence pour la dissidence et la résistance à l'actuelle politique israélienne. C'était donc un enregistrement en 1991, lorsque je l'avais rencontré à Jérusalem, en octobre 1991, 12 ans déjà, et j'ai eu envie de vous faire entendre, réentendre cette voix à l'occasion des présentations de films israéliens et palestiniens au cinéma des Trois Luxembourg, à Paris. C'est la fin de ces rencontres. Et j'ai voulu vous faire entendre ce document. C'est surtout suite à l'émission de vendredi avec les cinéastes Abraham Segal et Eyal Sevan, cinéaste israélien, qui a longuement filmé le professeur Leibovitch. Et parmi les documents filmés par Eyal Sevan, eh bien, il y a un document tout à fait rare et exceptionnel qu'il a filmé le 9 mars 1992 exactement. C'est une rencontre entre le professeur Leibovitch dans sa petite maison de Jérusalem et l'historien Pierre Vidal-Naquet. Et c'est un document rare, la qualité sonore n'est pas excellente, mais à l'heure où certains s'entêtent dans le chantage à l'antisémitisme devant la moindre critique de la politique israélienne, eh bien, ça m'a semblé intéressant de faire entendre les voix de ces deux hommes à la fois libres et engagés, Pierre Vidal-Naquet et le professeur Leibovitch.
Vous avez reçu mon livre.
Nous avons un problème de langage. J'entends le français assez bien, mais n'ayant eu jamais l'occasion de parler français, je peux difficile pour moi.
You can speak English.
Also foreign language for me, nevertheless, I'm used to speak English.
Vous êtes là, tous les deux, ces deux judaïsmes qui sont presque opposés, on peut dire. Vous êtes tous les deux, vous définissez en tant que juifs. Professeur Leibovitch, vous dites, il y a seulement un judaïsme historique, c'est le judaïsme.
Historique. Mais notre problème, c'est le présent.
Sur le présent, nous sommes d'accord. Puisque nous pensons l'un et l'autre que l'occupation des territoires est une perversion.
Certainement.
Pour le judaïsme, une perversion pour Israël en tant qu'Israël est un État juif et à long terme, un danger évident.
La grande victoire brillante de la guerre de six jours, c'était un désastre politique et historique de l'État d'Israël.
J'ai
changé le caractère de l'État d'Israël. L'État d'Israël a cessé d'être le cadre de l'indépendance politique nationale des peuples juifs et est devenu un instrument de domination violente sur notre peuple.
Sur ce point, je ne peux qu'être totalement d'accord et j'ai écrit en juin 1967 que les conséquences d'une victoire arabe eussent été sans nul doute épouvantables, mais que les conséquences de la victoire d'Israël risquent, à proche ou long terme, de ne l'être pas moins.
Oui.
Donc sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. D'une certaine manière, là où probablement nous divergeons, c'est que dans la pensée des Israéliens, la diaspora est une sorte de maladie. Et moi, je ne pense pas que la diaspora soit une maladie.
Well, this is a generalization. Il n'y a pas une pensée d'Israël. Il y a des pensées d'Israël.
Bien.
Il n'y a pas la pensée d'Israël.
Je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que c'est ce que je pense moi-même du judaïsme. Je ne pense pas qu'il y ait un judaïsme, qu'il soit historique ou non, je pense qu'il y a des judaïsmes, et il m'arrive de dire que le judaïsme s'exprime assez bien par un mot grec, qui est le mot poikilia, qui signifie quelque chose comme la variété, la bigarrure. C'est un mot que Platon détestait, parce qu'il représentait tout ce qu'il haïssait, notamment la démocratie, mais c'est un mot qui me plaît.
Mais quel élément, aujourd'hui, je crois qu'il manque un élément commun.
Sans doute, mais vous connaissez la blague. Qu'est-ce qu'un juif ? C'est un monsieur qui, lorsqu'il rencontre un autre monsieur, se demande avec lui, qu'est-ce que c'est qu'un juif ?
That's not an answer.
Sur ce point-là de valeurs juives, vous dites à un moment dans votre livre, vous dites, il est cependant vrai qu'il y a une éthique juive qui s'oppose à la torture.
Oui.
Et vous dites plus loin, nous sommes juifs et l'État d'Israël, vous parlez des juifs français, vous dites, nous sommes juifs et l'État d'Israël n'est cependant pas notre État. Mm. Mais il prétend parler au nom du judaïsme tout entier, et cela nous impose aussi des devoirs, et d'abord celui de ne pas accepter sans critique n'importe quelle déclaration de principe, n'importe quel démenti. Vous le dites à propos de la torture en 77.
Les ci-devant présidents de la Haute Cour de justice de l'État d'Israël a légalisé la torture.
Ça, c'est une des...
interrogation des prisonniers palestiniens.
Mais ça, c'est une des pires nouvelles qui puisse arriver, et c'est une des pires perversions.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe.
يا دنيا بلاش تصحيني على فين يا موج الشوق
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à Eyal, Sivan et Armel de Momento. À la technique, Antoine Viossa et Michel Thomas. Réalisation Antoine Chao, assisté de Joël Levert et Koyen Guyen. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Le fax, 01 56 40 41 07. Ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est demain à 17h. We'll be right back. En attendant des nouvelles de Daniel Mermet qui nous a annoncé son départ pour Bagdad, nous écoutions les frères palestiniens Samir et Wissam Djoubran, originaires de Nazareth et vivant à Ramallah. C'était Kianat Maria, la sonorité délicate des joueurs de Houd.